dans l'actualité des idées aujourd'hui. Et si l'Afrique montrait le chemin? Quel modèle à échelle mondiale? On en parle avec nos deux invités. Tout d'abord, l'écrivain franco-djiboutien Abdourahmane Waberi. Il enseigne à l'université George Washington. Il est l'auteur précédemment de Aux États-Unis d'Afrique, paru une première fois en 2006. Et le co-auteur aujourd'hui avec Alain Mabankou du dictionnaire enjoué des cultures africaines qui paraît chez Fayard après avoir publié à la rentrée un roman chez Lattès, Pourquoi tu danses quand tu marches? Bonjour à vous, Abdourahmane Waberi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
À vos côtés, le président de l'Agence française de développement, Rémy Rioux, auteur de Réconciliation avec un S, paru aux éditions Débat public, alors que s'achève le forum de Paris sur la paix auquel vous avez participé hier en discussion avec le philosophe historien camerounais Achille Mbembe. Bonjour à vous, Rémy Rioux.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Ce livre, Abdourahmane Waberi, est un abécédaire buissonnier, une sorte de portrait, ou plus exactement une mythographie qui donne à voir et à sentir le pouls d'un très grand continent dont la puissance culturelle est en train de se déployer sous nos yeux, écrivez-vous. Il n'y a pas à vous lire une, mais des cultures africaines. Est-ce à dire qu'on pourrait parler non pas de une, mais aussi des façons africaines d'être au monde aujourd'hui?
Bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, évidemment, il y a plusieurs Afriques. Nous connaissons principalement la francophone, mais par exemple, pour des raisons linguistiques et les barrières ne sont pas d'aujourd'hui. Nous connaissons un peu moins les frontières, les parties portugais, de langue portugaise ou de langue anglaise ou ce qu'on appelle le Maghreb. Donc nous, on a essayé vraiment d'avoir une Afrique qui va du Maroc à Maurice, j'allais dire, et qui évidemment enjambe les Sahara de part et d'autre. Et donc voilà, et même il y a l'Afrique diasporique, puisqu'il y a quelques entrées qui concernent Haïti, Cuba, Bahia, Salvador de Bahia. Donc cette Afrique, elle est à la fois un territoire de l'imaginaire, elle est aussi le continent, mais elle est aussi une idée, elle est aussi un discours, elle est aussi une esthétique.
Et vous évoquez déjà la possibilité d'un deuxième volume, comme quoi aussi ces définitions ne sont pas arrêtées, pas figées, loin de là, de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, culturellement parlant, à travers son continent ou ses diasporas. Hein.
Mais nous avons un deuxième volume en route qui va concerner la France africaine ou la France noire, pas la France africaine, en fait, France-Afrique, mais les Frances noires et, par exemple, l'impact des populations d'origine africaine ou qui sont françaises, qui viennent de l'immigration ou qui viennent des Antilles, par exemple. Et donc, cette nouvelle France a aussi une nouvelle cartographie à faire émerger, à faire connaître au plus grand public, en tout cas.
Nelson Mandela, Léopold Sédar Senghor, Obama ou Kylian Mbappé, le wax, la sape ou encore le café, des figures africaines, des styles et des concepts comme l'afrofuturisme, le développement, le djihadisme, l'intervention militaire, la présence africaine ou encore les réfugiés climatiques, autant d'entrées présentes donc dans ce dictionnaire enjoué des cultures africaines que vous co-signez avec Alain Mabankou, Rémy Rioux. On l'entendait à travers la voix d'Abdourahmane Waberi, on le comprend déjà, l'Afrique a trop longtemps souffert de ses préjugés. Vous écrivez, Abdourahmane Waberi, l'Afrique a longtemps été perçue comme un réservoir de malheur ou un continent frappé d'une malédiction atavique et caractérisé par des affrontements ethniques. D'où le choix de ce dictionnaire enjoué à l'image de la vitalité et de la pluralité de ces cultures que vous exposez ici pour changer des représentations. Il est important, elle est importante cette question, Rémy Rioux, des représentations. Comment y parvenir? C'est un peu à ce nouvel élan que vous aussi vous appelez dans votre livre Réconciliation, changer les regards, les représentations.
Oui, moi j'ai pris un très grand plaisir à lire le livre d'Alain Mabankou et Abdourahmane Waberi. Vous l'avez dit, une formidable galerie de portraits, d'entrées. Et puis j'y ai vu beaucoup de cohérence avec ce que j'ai essayé moi-même d'écrire. Il y a une entrée qui s'appelle les Émis de Jean. Moi j'adore parce que j'ai vécu au Bénin. Et vous savez, les Émis de Jean, c'est ces petites mobilettes là. Prends-moi sportivement, ça veut dire rapidement. Il semble que ça m'a rappelé ma jeunesse. Mais il y a une entrée Ubuntu aussi, vous savez, qui est un grand principe de fraternité en Afrique du Sud qui a guidé la réconciliation nationale du pays, donc un très fort écho. La notion de réconciliation, elle est peut-être née en Afrique. Et puis, Abdourahmane Waberi, vous l'avez dit, a écrit un grand livre qui s'appelle « Aux États-Unis d'Afrique ». Et nous, à l'AFD, on a une stratégie qu'on a appelée avec deux tout petits mots. On dit « toute Afrique ». Et « toute Afrique », ça veut dire arrêter de couper l'Afrique en deux, au moins entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, pour pour prendre vraiment toute la mesure de l'Afrique, sa puissance, sa force, et puis voir les Afriques, bien sûr, ensuite, les dynamiques régionales, ce qui se passe. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à passer. Merci pour votre invitation ici en France. Il va y avoir une très grande saison Africa 2020 l'année prochaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était là hier, l'un des quatre grands orateurs du Forum de Paris pour la paix. Le président de la République, Emmanuel Macron, parle souvent de la part d'Afrique en nous, en France.
Et on va l'écouter, Emmanuel Macron, voilà. Si vous le voulez bien, Rémy Rioux, présenter cette saison africaine 2020. C'est donc l'an prochain. Juste expliquez-nous pourquoi vous avez choisi ce mot de réconciliation.
Ah, j'aime pas le mot de... Enfin, il y a une entrée intéressante dans le livre aussi, dans le dictionnaire, sur développement, un peu piquante, où les auteurs nous disent « développement, c'est un mot un peu bizarre, parce que soit c'est en dehors de nous, finalement le développement de l'Afrique, ça ne concerne pas spécifiquement la France, et du côté des Africains, c'est un mot qui paraît un peu ancien, charrié, qui charrie beaucoup de notions. Et donc moi, directeur général de l'Agence française de développement, ça m'interpelle. Et donc j'ai cherché un autre mot peut-être pour dire ce que nous faisons. Ce que nous faisons de façon au ras du sol, dans chacun de nos projets, cette écoute, cette étude, cet engagement, cette évaluation qu'on essaye de mettre dans toutes nos actions. Et puis un mot qui vaudrait aussi pour répondre à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire ce phénomène de fracturation, de fissuration géopolitique, à l'intérieur aussi de chacun des pays, de nos sociétés. Et donc, face à cette fracturation, quel principe, quel objectif, quelle méthode on pourrait mettre en place, peut-être inspiré un peu de nos pratiques. Et je trouve que ce mot de réconciliation, c'est pas la paix, c'est un chemin, c'est une méthode, et c'est peut-être quelque chose qui peut inspirer et donner un signal d'espoir dans la situation actuelle.
C'est un élan, dites-vous. L'époque des donateurs et des bénéficiaires, des rapports unilatéraux et asymétriques est révolue. Place à une époque de dialogue et d'intelligence collective entre partenaires sur un pied d'égalité. Il faut passer au niveau supérieur de pensée et d'action pour libérer l'indispensable mobilisation collective. Extrait de votre ouvrage Réconciliation Paris, paru à l'été dernier. Abdourahman Waberi, développement, c'est un mot qui appartient ou qui devrait appartenir au passé. Il est temps de chercher aussi des mots nouveaux.
Ce qu'il y a de tout à fait à la fois... J'allais dire presque émouvant, intéressant, jouissif, c'est qu'on commence à parler de plein pied, on commence à avoir les mêmes mots, et j'étais très très heureux d'avoir le livre de Rémy Rioux qui s'appelait Réconciliation avec un S, et j'ai dit mais c'est dialogue.
On est très fâchés, beaucoup de réconciliation.
nous autres intellectuels, parce que Monsieur Rioux est de la AFD, il est du réel, vous voyez, il connaît les réalités concrètes, et nous sommes du rêve, mais ça, en fait ça n'a jamais été si éloigné que ça, les rêves et les réalités. Donc on commence à discuter, j'étais très heureux que Achille Bembe et Rémy Rioux avaient une longue discussion hier. Et c'est un certain nombre de choses qu'on avait déjà un peu mis sur la table. Je parle de mes amis comme Felwine Sarr, Alain Mabankou, Achille Bembe, etc. C'est cette réalité de dire finalement l'Afrique, elle n'est pas derrière nous, elle est peut-être même devant nous, mais en tout cas elle est présente et on ne doit pas la cacher, on ne doit pas la sortir à l'occasion d'un, je sais pas, un énième sommet, etc. On ne doit pas toujours la parler à sa place. L'Afrique, c'est pour nous une évidence. Elle est déjà là, elle est même en partie devant nous. Et de quoi en parlons-nous? C'est à la fois du concret, c'est-à-dire par exemple un quart de l'humanité en Afrique, je sais pas, plus de 2/3 de terres arables, 1/3 de ressources énergétiques, etc. Ça, c'est du réel, mais en même temps, il y a aussi un certain nombre de choses que l'Afrique peut nous apporter au niveau des imaginaires, et c'est là où nous insistons. Par exemple, Rémy citait, Ryu citait Iboudou, mais je pourrais citer aussi Kassala, par exemple, qui est une espèce de d'art poétique qui remet les gens en forme eux-mêmes, j'allais dire individuellement, parce que c'est une célébration de la vie. Et si, Olivia, je vous chante, je fais votre Kassala.
Je vous en prie.
Faites-le. On va avoir un élan de vie qui va nous traverser de vous à moi, puisqu'on en sera dans un dialogue où vous allez être reconnu par moi et collectivement et inversement vous allez me reconnaître et nous allons nous rehausser et prendre de l'énergie et du bonheur ensemble. Et ça, c'est une pratique concrète africaine qu'on utilise du Congo à Djibouti et du Rwanda en Afrique du Sud, vous voyez, ce sont ces choses-là à la fois du concret, mais aussi du réel et de l'imaginaire que nous essayons de mettre ensemble. Et c'est, je suis très heureux encore une fois que l'AFD et Rémi Rioux soient dans les mêmes dialogues.
C'est aussi pour ça que l'afrofuturisme méritait une entrée dans ce dictionnaire enjoué après le tsunami Black Panther. Rappelez-vous, Abdourahmane Waberi avec Alain Mabankou. Il y a une nouvelle visibilité qui doit se faire et s'ouvrir pour ce courant artistique qui pourtant naît déjà au début des années 90 et qui propulse déjà peut-être l'Afrique au cœur des imaginaires de demain. Cette question, cet enjeu des imaginaires, elle est cruciale aussi, Rémi Rioux.
Bah, vous vous souvenez dans Black Panther, la dernière scène. On est dans un quartier déshérité d'une banlieue américaine et on apprend que le prince de Wakanda a financé un dispensaire pour le bien-être des populations américaines. Donc on est dans ce, je vais pas dire le monde à l'envers, mais on est. Et moi j'ai très concrètement, j'ai demandé à toutes mes équipes de l'Agence française de développement, on est 1000 personnes sur le terrain, je leur ai dit de regarder. Et que toutes ces innovations, ces choses qui sont en train de naître en Afrique, ben on les ramène ici. Donc on a même, on la rendra peut-être publique, on a une petite application chez nous là où les gens écrivent ce qu'ils voient, qu'ils n'ont pas vu chez nous, et qu'ils découvrent sur le terrain, et qui peut nous inspirer. Ça apparaît, on sait bien la téléphonie mobile, enfin il y a 1000 exemples, moi je le vois à chacun de mes déplacements, où on voit que l'Afrique innove, l'Afrique est devant, on parle de culture. J'ai vu un article disant qu'on se mettait à cultiver le sorgho à la place du maïs en Haute-Garonne et que c'était beaucoup mieux adapté finalement au respect des sols. J'ai vu le patron de l'office chérifien des phosphates récemment au Maroc qui m'a dit que les nouveaux engrais, les nouvelles façons de produire, c'est en Afrique qu'elles sont en train d'être inventées et ça va venir chez nous où évidemment on inonde nos terres de beaucoup trop d'engrais. On en parle beaucoup de glyphosate, etc. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer en Afrique et ça nous inspire.
Alors vous l'avez évoqué, Rémi Rioux, rappelons-le quand même, les auteurs peut-être de Black Panther vous doivent quelques copyrights, Abdourahmane Waberi, puisque aux États-Unis d'Afrique, déjà vous imaginez un continent noir, centre économique et intellectuel du monde. Un roman de politique fiction qui a été réédité par Zulma dans sa collection Poche et qu'on peut trouver largement en librairie sur la place de ces imaginaires. Vous parliez d'Emmanuel Macron, vous parliez de la saison africaine 2020. On retourne dans ce voyage officiel qu'il avait mené au Nigeria, où le président français a donc lancé cette saison des cultures africaines 2020.
Je crois que ce qu'on veut faire avec cette saison justement africaine, cette saison des cultures de l'Afrique en 2020, c'est de changer le regard réciproque. En tout cas, c'est le pari qui est pris. C'est un de dire, on va montrer aux Français ce qu'est l'Afrique d'aujourd'hui. Ils ne la connaissent pas. Ça n'est pas vrai. D'abord parce que l'Afrique est reléguée à certains endroits, et ensuite parce que la plupart de nos concitoyens qui se tournent par accident vers l'Afrique regardent une Afrique d'archéologues ou de collectionneurs occidentaux. Beaucoup de gens connaissent, et c'est un travail formidable qui a été fait, et je le soutiens, je suis moi-même un passionné, mais les gens connaissent l'Afrique peut-être par le musée du Quai Branly ou les collections de M. Kershach, qui a fait un travail extraordinaire et qui a donné à voir, mais une Afrique qui n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui, dans laquelle se reconnaît pas la jeunesse africaine. Et on ne connaît pas, ou très peu, les artistes, chanteurs, peintres, artistes de cinéma, etc.
Voilà, Emmanuel Macron qui avait accordé donc à l'occasion de ce voyage en 2018 un entretien à RFI. Donc vous venez d'entendre un extrait avec cette idée donc que le continent doit maintenant écrire sa propre histoire, que les regards portés sur l'Afrique doivent changer, ce qu'on évoquait à l'instant, Abdourahmane Waberi.
Non, ce qui me plaît dans ce qu'a dit Monsieur le Président, c'est que c'est d'abord le lieu d'où il a parlé. On ne le souligne pas, s'il a parlé du Nigeria, Monsieur Rioux. Voilà, Monsieur Rioux Iweala est aussi quelqu'un du Nigeria qui a préfacé les livres. Donc on voit bien que l'énergie, elle vient du Nigeria. Et il a parlé du shrine. Le shrine, c'est ce temple de la musique de Fela. Et Emmanuel Macron, jeune élève de l'ENA, a fait son stage là-bas. Donc on voit bien qu'il y a l'Afrique de demain, elle s'est dit dans les grandes villes comme Lagos, et il y a une énergie à Lagos qui, évidemment, et il met ça à dessin, il met ça en rapport avec Kerchage, qui est l'Afrique du musée, l'Afrique d'hier, on va dire. Donc c'est ce qui me retient, moi, ce que je retiens, c'est que M. Emmanuel Macron a vu l'énergie, mais il l'a vu dans le lieu comme le lieu du shrine, et ça c'est très important parce que ça contextualise. On n'est plus dans l'Afrique de papa, et tant mieux.
Mais quel est le but politique aussi, au-delà de la question culturelle et artistique d'une saison africaine comme celle-ci?
C'est du soft power, mais on le dit, et c'est tout à fait normal qu'un grand pays comme la France ait une relation culturelle de ce type-là. Mais ce qui est de plus en plus, moi ce qui me réjouit, c'est que nous avons d'abord des jeunes acteurs. Monsieur Ryu n'a pas l'âge des anciens opérateurs, monsieur le président est jeune, donc ce sont des gens qui peuvent très très bien comprendre ces nouvelles relations africaines et qui peuvent très bien la gérer. C'est ça qui est bien. On n'est plus dans l'imaginaire d'hier où on discutait derrière avec les dictateurs et après on laissait tomber. Là, nous sommes des gens qui comprennent et qui sont tout à fait de plein pied avec les réalités africaines.
Et puis Emmanuel Macron a dit, je crois que c'était devant les diasporas il y a quelques mois, la France ne se réconciliera avec elle-même que si elle accepte la part d'Afrique en elle. Vous avez, je crois, 15% de la population française qui a une origine africaine. Donc c'est aussi un sujet politique, un sujet pour notre propre pays. Donc le faire exister, comprendre l'importance de l'Afrique, sa contribution, réfléchir aux liens entre la France, l'Europe, à la réconciliation peut-être, si on a des points de divergence à régler entre nous. Je crois que c'est un sujet extrêmement important en France. C'est ça que dit le président.
Et cette réconciliation ne peut advenir que sous la forme aussi de certaines réparations. On parle de la question culturelle. Il y a ce grand débat qui a eu lieu autour de la restitution des œuvres d'art. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Voilà ce que disait Emmanuel Macron à Ouagadougou il y a 2 ans. Cette décision de restituer des œuvres pillées que la France s'était appropriées au moment des conquêtes coloniales et qu'elle conservait dans ses musées, elle vous semble juste et importante, presque un préalable. Rémy Rioux, Abdourahmane Ouaberry.
Il y a eu un rapport, vous savez, qu'avait commandé Emmanuel Macron, Sars-Savoie, qui a montré, je crois, qu'il y a une situation très spécifique qui est faite à l'Afrique, qui est finalement que les œuvres d'art, les expressions de la des cultures africaines ne sont pas disponibles, en fait. Ou pour les voir, ou pour en prendre conscience, en imprégner, il faut venir au British Museum, il faut venir au Quai Branly, il faut aller à Berlin, il faut aller aux États-Unis, il faut donc... Il y a quelque chose d'étrange et il faut certainement bâtir une circulation, un échange, pour que les jeunes générations africaines prennent conscience de ça. On prenne conscience d'ailleurs, je pense, dans une logique universaliste, c'est-à-dire c'est pas du tout pour dire l'Afrique doit s'affirmer et se fermer sur elle-même, c'est pas ce que vous dites, c'est pas ce que dit Achille Mbembe, c'est l'Afrique comme part de notre civilisation universelle. Donc peut-être qu'il faut pas d'ailleurs, je parle à titre personnel, mais il faut peut-être pas envoyer en Afrique que des œuvres d'art africaines. Il faut, ce qu'on a fait à Abu Dhabi par exemple, dans le musée de Jean Nouvel, c'est un musée universel. Il y a des œuvres grecques, il y a des œuvres françaises, c'est un élément de la culture du monde. Mais il faut traiter évidemment ce sujet particulier d'un retour, d'une circulation d'œuvres créées en Afrique qui reviennent sur le continent. Et nous à l'AFD d'ailleurs, on sera très heureux de participer à ce mouvement. On discute avec le gouvernement du Bénin, vous savez, puisque la première restitution qu'a annoncé le président Macron, c'est ces 26 œuvres qui ont été dérobées par le colonel Dodds en 1892 à Abomey, dans le royaume d'Abomey. Et donc là, on va financer, j'espère, le musée, la conservation, pour que ces œuvres soient restituées dans les meilleures conditions. On travaille sur le musée national du Yaoundé au Cameroun. On travaille sur le musée également à Addis Abeba. Vous savez à quel point le jeune premier ministre Abiy éthiopien fait du patrimoine et de la culture un élément de sa réconciliation nationale dans la tension actuelle qui existe en Éthiopie. Voilà, beaucoup d'exemples qui montrent à quel point la culture est ce sujet qui a touché une fibre très sensible, en fait, hein, cette annonce du président Macron, progresse et va se mettre en œuvre dans les prochaines années.
Un prix Nobel de la paix qui est quand même aussi venu récompenser ses actions actuellement en Éthiopie et tourner les regards.
Oui, vous savez, comme il parle de la Libella, comme il parle de son Unity Park, qui s'appelle, qui vient d'ouvrir à Addis Abeba. C'est vraiment très intéressant ce qui se passe là-bas.
Abdourahmane Waberi.
Addis Abeba, d'abord, je suis très sensible, il y a une entrée, mais je ne vais pas parler, je ne vais pas ramener les débats vers chez moi entre Djibouti et Addis Abeba. Non, ce que je voudrais dire sur les rapports Sahar-Savoie et ce que M. Macron a fait, c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, si on lit attentivement les rapports, il ne s'agit pas d'une, vous voyez, il s'agit pas d'un coup de un prince qui rend quelque chose. Vous voyez, on n'est pas dans les Moyen-Âge. Ce qu'ils disent très concrètement, c'est que c'est un dialogue. Vous voyez, c'est une humanité partagée et la statuette qu'on a dérobée à un peuple africain, une culture africaine, nous appartient désormais. Vous voyez, une fois que l'acte a été commis, c'est de créer cette sensibilité nouvelle et à la limite, cette œuvre, elle peut être exposée même ailleurs. C'est pas ça le souci. Vous voyez, c'est que ce partage de la part du sensible, comme disait l'autre, voyez, comment répartager les sensibles et comment réhabiter les mêmes lieux. Pourquoi les restituer, évidemment, reconnaître la violence historique qui a été faite aussi, mais comment aujourd'hui on peut dialoguer nous-mêmes à partir de cette œuvre-là.
Alors, c'est ça qui est intéressant. Il y a ce patrimoine artistique et culturel qui doit désormais être ouvert et accessible aux générations futures, vous l'évoquiez, mais il y a aussi peut-être l'urgence de créer un marché et les conditions d'un retour. Écoutez à ce sujet Amobe Mevege, journaliste camerounais.
Les Africains n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si ce sont les autres qui racontent leurs épopées, ils les racontent en leur faveur. Donc en fait, l'Afrique est un peu en manque. Je précise peut-être que le marché de l'art se partage essentiellement entre l'Asie, les États-Unis et un peu l'Europe. Donc il faudrait que ça change. L'Afrique est en manque.
Ça a changé. Il y a eu beaucoup d'expositions d'art africain contemporain.
Je parle de marché, je ne parle pas de visibilité.
Absolument.
Et aujourd'hui, l'Afrique est en manque de curateurs, de galeries, de collectionneurs, de marchands d'art, etc. L'Afrique, depuis Braque, Derain, Picasso, a influencé, on va dire, la geste des grands maîtres de la peinture, mais pourtant ne s'appartient pas. Aujourd'hui, les prescripteurs, ils sont tous sauf africains. Donc il faut que ça change.
Voilà, l'art africain qui ne s'appartient pas, très bien souligné par Amobe Mevege, comment se le réapproprier. C'est intéressant parce qu'on a appris hier, c'était au Forum de Paris, pour la paix, le choix du milliardaire américain George Soros de lancer une initiative d'un montant de 15 millions de dollars afin de renforcer les efforts, je cite, visant à restituer des objets culturels pillés sur le continent africain, et ce par le biais de ses fondations Open Society, créées il y a une trentaine d'années. Vous évoquiez dans votre livre, Rémy Rioux, l'importance de considérer aujourd'hui cette époque des donateurs et des bénéficiaires, ce rapport presque un peu unilatéral comme révolu. Est-ce que là, comment vous accueillez une telle initiative, celle de George Soros?
On connaît bien Open Society et George Soros, son fils qui était là hier, mais on lui dit venez travailler avec nous, essayons de bâtir des projets effectivement en commun sur ces questions de patrimoine. Je voulais juste réagir sur le sujet aussi du marché de l'art, parce que c'est faire un peu rapidement l'économie de l'incroyable créativité des artistes africains aujourd'hui. Je veux dire, qui s'interroge aujourd'hui sur la place de la musique, par exemple, dans l'économie africaine et dans l'économie de la musique mondiale? La même chose est en train de se développer dans les autres arts. Après,
il est sur la question économique, en fait, mais plus que sur la question artistique.
J'y suis moi aussi.
Je dirige
une banque de développement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus que la culture, ce sont les industries culturelles et créatives. Et c'est comment on arrive par la culture à créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse pour les économies et les jeunesses africaines. Nous, on fait pas que financer des musées, bien sûr. Moi, j'étais récemment à Nairobi où on a investi dans un fonds qui s'appelle Eva Fund, qui est un fonds qui finance les créateurs. On essaye de voir, au Nigeria notamment, si on peut pas mettre dans les banques des lignes de crédit c'est-à-dire des financements avec un peu d'assistance technique pour que les artistes puissent avoir accès à des prêts, ce qui aujourd'hui est très largement impossible. Et donc il y a ce substrat, il est dans votre livre, il faut qu'on arrive et qu'on trouve les instruments pour l'animer. L'Afrique aujourd'hui, vous savez, dans les grandes régions du monde, les industries culturelles et créatives, c'est de l'ordre de 3% du produit intérieur brut, c'est très gros. En Afrique, c'est plutôt, on estime, à 1%. Donc il y a un potentiel de développement, de croissance qui est gigantesque. Oui,
parce qu'on a parlé des œuvres d'art, on parle de la musique, on pourrait parler de l'édition aussi.
Je suis pas d'accord d'ailleurs avec Mévégué que je connais très bien. Il parle encore une fois, et il a raison en partie, mais sur l'Afrique francophone. Voyez, si on change des registres ou des zones, c'est pas tout à fait le cas. Là, encore une fois, je reviens.
Il y a un marché de l'art en Afrique du Sud.
D'abord, il y a des curators et il y a des artistes, ça on sait, même c'est même en ce moment il y en a même un peu trop, ouais, pas un peu trop mais
comme partout
il y a beaucoup de ces artistes là d'une part, d'autre part il y a des curators et des médiateurs. Troisième chose, il y a un marché de l'art africain au Nigeria par exemple, où les nouveaux milliardaires africains achètent sur des choses qui ne sont peut-être pas encore tout à fait le nec plus ultra, mais ils achètent des choses. Et il y a, je crois, la dernière œuvre qui était achetée par un milliardaire nigérian anonyme. Je pourrais encore citer, et Rémi Rose et connaît l'histoire aussi, l'Alliance française de Lagos, qui est un des lieux les plus importants de Lagos, a été payée cash par les milliardaires nigérians. Vous voyez, c'est Alliance française. Vous voyez. Donc on voit bien qu'il y a des milliardaires qui peuvent acheter
toute
des lieux, qui peuvent faire, qui peuvent œuvrer à beaucoup de choses. Et ils viennent pas du Nord, ils sont pas des donateurs, ils font pas de la générosité. Ce sont des investis. Ils investissent aussi. Donc des gens qui achètent, il y en a aujourd'hui. Il y en a un peu, il y a pas encore dans, on va dire, l'Afrique francophone, mais il y en a déjà ailleurs, en Afrique du Sud et au Nigeria.
Un peu ce qu'a fait Lionel Zinsou au Bénin, le musée à Ouida, ou ses collections à Cotonou. Il y a des choses à Abidjan aussi. Enfin, les choses sont en train de... Le musée à Dakar, beaucoup de choses sont en train d'émerger.
Lionel Zinsou et sa fille,
absolument.
Et surtout également Marie-Cécile Zinsou. Et si l'Afrique montrait le chemin avec nous jusqu'à 13h30, l'écrivain Abdourahmane Waberi, à l'occasion de la sortie de son dictionnaire enjoué des cultures africaines, c'est chez Fayard et c'est co-signé, co-dirigé avec Alain Mabankou et le président de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, auteur de Réconciliation, paru en juin dernier aux éditions Débat Public. On parle d'inspiration, on peut parler aussi d'appropriation. C'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Voilà comment le sociologue Éric Fassin qualifie la question qui a fait largement débat, voire polémique, de l'appropriation culturelle. Étonnamment, il n'y a pas d'entrée sur cette appropriation culturelle comme concept dans votre dictionnaire enjoué, Abdourahmane Waberi, alors que le sujet reste très vif, très chaud, très polémique. La question n'est pas de première importance pour vous, à vos yeux ?
Si, si, mais vous savez, on n'a fait que 108 entrées, donc on en a quelques-unes qu'on a loupées. Mais nous vivons, Alain et Mabankou et moi aussi aux États-Unis, on voit comment la question de l'appropriation peut aussi être un frein. Donc nous, on est dans un mode plutôt d'universel, latéral et partagé, c'est-à-dire comment discuter d'avant, même en ayant des difficultés, que de l'appropriation pure et simple, ou des fois, aux États-Unis notamment, on dit qu'une personne blanche ne peut pas faire un film sur les Noirs. Vous voyez, là, on arrive à des choses qui sont... C'est pas notre tradition. Hein. On a une tradition plus, on va dire, euro-africaine, peut-être, ou à réinventer, à réconcilier. Mais je ne suis pas sûr qu'une politique assez poussée des politiques des identités d'une part et de l'appropriation d'autre part soit une bonne idée aussi. Moi, je suis pour un universel latéral, ce que mon ami Souleymane Bachir Diagne appelle l'universel latéral.
Dans ce très beau livre qu'il a publié récemment, il y a une phrase magnifique dans le dictionnaire, qui est cette phrase de Kwame Nkrumah, « Je suis africain non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi ». Donc il y a évidemment une dose de l'universel dans tout cela. Et on pourrait dire la même chose pour la France ou pour l'Europe, ou pour les États-Unis d'Amérique.
Exhibit B fait en revanche l'objet d'une entrée dans votre dictionnaire enjoué, évocation des os humains par l'artiste sud-africain Brett Bailey. C'était une citation qui là aussi a fait grand bruit. Vous défendez l'art et la méthode, Abdourahmane Waberi?
C'est, disons que ça remet la question de la discussion, ce qui était intéressant. Moi, je suis pas pour... J'étais pas très sensible à cette entrée, mais je veux dire, mais en même temps, ça fait partie des dialogues et ce sont des choses qui se sont passées récemment. C'est peut-être des choses qu'on va plutôt insister sur le volume 2, puisque tout à l'heure, Rémi Ruyou nous disait qu'il y avait 15% de, des gens qui avaient une relation à l'Afrique, qu'elle soit filiale et autre, imaginaire. Donc, on voit bien qu'il y a une Afrique noire et c'est dont on va parler. Peut-être qu'on va peut-être affiner notre analyse de cette exposition dans les prochains volumes. Mais ce qui nous paraissait en tout cas intéressant, c'était d'en signaler d'abord l'existence et les débats qu'elle a provoqués.
Mmh. Réconciliation avec un S. Vous repartez de l'exemple de l'Afrique du Sud aussi pour ouvrir vos réflexions aujourd'hui, Rémi Ruyou, sur ce nouvel élan à donner. Et si on reparle un peu de la situation actuelle, des tensions qu'il peut y avoir aussi, réconciliation, comment la mener à bien?
Alors oui, il y a des, vous le savez, les flux migratoires en Afrique vont majoritairement, sont intra-africains pour l'essentiel, et se dirigent très majoritairement vers la zone la plus riche d'Afrique, qui est quelque chose qu'on n'a pas en tête en France, parce que comme on coupe l'Afrique en deux, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, vous voyez les chiffres économiques de l'Afrique subsaharienne en moyenne en fait. Or, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud en premier lieu et ses voisins, est une zone plus riche que l'Afrique du Nord. Donc les gens sont rationnels quand malheureusement ils doivent quitter leur pays pour trouver un emploi, un avenir. Ils vont souvent en Afrique du Sud. Donc les chauffeurs de taxi à Harare, à Johannesburg, sont très souvent francophones. Mmh. par exemple, ou même parfois de Guinée ou d'Afrique de l'Ouest. Et donc vous avez raison, ça a créé en Afrique du Sud des tensions très fortes, qui a conduit le président du Nigeria en particulier à se rendre auprès de Cyril Ramaphosa pour essayer de calmer ces tensions et mettre en place des procédures de réconciliation qui passent, à mon avis, c'est la thèse du livre que j'ai produit, c'est pour se réconcilier, il faut changer la réalité. C'est là que ça renvoie aux actions de nos maisons de développement, c'est-à-dire il faut arriver à embarquer les gens dans un projet commun qui change leur vie et qui change la vie surtout de leurs enfants. Et c'est donc pas seulement des mots, il faut des mots, il faut un récit, il faut embarquer les gens dans quelque chose de très culturel, dans un rêve. Mmh. Mais il faut aussi, à un moment, changer quelque chose de très concret pour que les gens acceptent de s'engager.
Mmh. Pour prendre la mesure et comprendre les enjeux du continent, écrivez-vous, effectivement, il faut impérativement changer de regard, écouter, étudier et respecter. Ce phénomène de planétarisation qui fait de l'Afrique un acteur incontournable de tous ces combats, que ce soit sur les questions du niveau de vie, les questions culturelles ou encore la confrontation aux enjeux écologiques, il va falloir se tourner maintenant résolument vers le continent à l'avenir, impossible de faire sans l'Afrique, l'avenir du continent qui passera par aussi cette question mondiale des réfugiés, notamment des réfugiés climatiques auxquels vous consacrez là encore une entrée, Abdourahmane Ouaberi, dans votre dictionnaire des cultures africaines. Alors vous racontez, vous expliquez qu'aujourd'hui la distinction entre les réfugiés fuyant la guerre et ceux qui fuient ce fléau, des fléaux naturels, entre les réfugiés politiques et les réfugiés climatiques est plus aussi pertinente qu'elle l'était encore hier, en tout cas ces lignes ne sont plus aussi simples à tracer. Quelles solutions se présentent à nous? Vous en voyez trois, vous en distinguez trois, dont une qui tient a priori votre préférence.
Oui, au fait, ce qui m'a frappé dans cette entrée, c'est que je viens d'une région désertique, je viens de la Corne de l'Afrique. Et au fait, longtemps on a considérer, on va dire, les chaos qui existent, en tout cas on a expliqué le soubresaut qui existe dans la région par la géopolitique. On disait voilà, le Russe était là, les Américains l'ont remplacé, etc. Mais en fait, depuis très 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 longtemps, et ce qui vaut pour l'Afrique de l'Est vaut aussi pour les Sahel et d'autres choses. Donc en fait, le problème principal était un problème de climatique. En fait, si ces gens-là, si on a aujourd'hui en France, par exemple, beaucoup de gens qui viennent de la vallée du Nord, là, ce qu'on appelle la vallée du Sénégal, hein, la région des Cailles, les Soninké, c'est que c'est une région fragile. Si on a les lacs Tchad aujourd'hui qui est en train de quasiment disparaître, c'est une région fragile, etc. Donc, en fait, l'enjeu principal était un enjeu climatique. Donc, aujourd'hui, on comprend plus qu'on le comprenait il y a 10 ans.
Voilà, vous affirmez avec Alain Babonko que 3 solutions se présentent à nous. Continuer telle quelle, comme si de rien n'était. Suivre la proposition de Jonathan Swift et manger les nourrissons pour pallier à la surpopulation. Ou,
il n'y a qu'une solution,
sûrement mieux, redéfinir nos modèles de société, nos manières d'être, de vivre et de penser. Prêter l'oreille aux prophéties des poètes. Solutions et idées que vous défendez également, Rémi Ruyou, dans votre livre Réconciliation. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés autour de cette grande table. Rémi Ruyou, Réconciliation, chez débat public, Abdourahmane Ouaberi, avec Alain Baboncou. Dictionnaire enjoué des cultures africaines, volume 1, il vient de paraître chez Fayard. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Jean Frédérix, et à la vidéo, Swad Boukorsa. Merci, très bel après-midi sur France Culture.
Merci.